Bonsoir, bienvenue pour cette dernière rencontre de la journée. Avant qu'on commence, je vous signale que vous pouvez vous déplacer aux cocktails qui sont déjà servis autour de la salle pour revenir discuter avec Philippe Manchu et boire un coup avec nous. Normalement, tout le monde devrait se lever à ce moment-là, mais bon, ça ne marche pas. Alors bonsoir Philippe, bonsoir Manchu, merci d'être ici.
Bonsoir.
Donc nous avons le plaisir de t'accueillir pour une énorme exposition et une très belle affiche pour les Utopiales cette année. Donc en premier, j'ai envie de te poser la question qui brûle les lèvres de tout le monde, à savoir pourquoi Manchu en fait ?
Une question classique ça. En fait, ça vient de l'école de dessin où j'ai appris le dessin de pub, le dessin, le croquis, l'illustration. Et tout le monde m'avait surnommé Fu Manchu parce que j'aimais beaucoup les films de Fu Manchu avec Boris Karloff, les films des années 30 ou 40, je pense, d'après les romans de Sax Rohmer. Voilà.
Alors, pour un petit peu préciser par rapport à la soirée, il y avait marqué effectivement workshop, mais on va parler un petit peu du travail de Philippe, mais d'une manière un petit peu plus légère que de le faire travailler, parce que c'est la fin de la journée, et puis il a oublié ses crayons. Alors on va projeter quelques images en fait, et puis on va lui poser un petit peu des questions sur les travaux en cours, sur les images que l'on aura à l'écran. Et puis normalement, il y a un micro qui se balade dans la salle et je vous invite à m'interrompre et à l'interrompre pour poser plein de questions qui vous brûlent les lèvres parce que Manchu est quand même assez rare en fait en festival, surtout derrière un micro. Et donc voilà, je vous invite à ne pas hésiter à lui poser des questions de toutes sortes. Alors, qu'est-ce que l'on voit à l'écran en fait ? En premier, on voit à l'écran les croquis en fait que Philippe a produit pour l'affiche des Utopiales cette année. Et donc ces croquis, vous les avez en originaux donc à l'entrée de son exposition. Alors j'espère que vous avez quand même pris le temps d'admirer le travail, que ce soit sur les originaux terminés, mais aussi sur les croquis et sur les miniatures colorées qu'il fournit à quelques-uns de ses éditeurs. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton processus de travail au départ, et puis après on reviendra sur ton historique grandiose.
Le processus de travail d'une manière générale ou
dans
sur
l'ensemble
l'affiche ?
Alors, par exemple, sur l'affiche, effectivement, quand on te pose la problématique d'une affiche pour le Festival de Nantes, à quoi tu penses au départ ? Et par exemple, sur ces images précisément, qu'est-ce que tu avais, par exemple, voulu montrer un petit peu ? Et puis, qu'est-ce qui t'a motivé dans ces images ? Même si je sais que c'est des gros V8.
En fait, j'avais pas trop d'idées préconçues, moi, quand on s'est vu au mois de juin, quand on a fait le tour de la ville un peu pour faire des photos. Le thème de cette année me faisait un peu peur aussi, mais bon, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une série de photos documentaires de différents éléments de la ville. Quelque chose qui est assez représentatif, c'était les grues. C'est facile à mettre en scène. Et puis, ensuite, j'ai fait ce qui me passait un peu par la tête. J'ai mis en scène ces différents éléments. J'ai fait différentes compositions, planètes, vaisseaux spatiaux, voilà. Et après, il y a eu une décision qui a été prise sur l'affiche actuelle.
Là, vous avez les différentes propositions de Philippe. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire « Waouh, mais j'aurais préféré celle-ci ». Et alors toi, laquelle c'était ta préférée dans tes propositions, par exemple ?
Je ne me souviens plus. C'était peut-être celle de droite. Là. Mais en fait, celle qui a été choisie, je pense qu'elle est très représentative du festival et de la ville de Nantes. Quoi, en fait. C'est très général. En plus, apparemment, les quais n'avaient jamais été représentés. Donc c'est peut-être ce qui a emporté la décision.
Et alors, lorsque tu travailles sur une image de cette manière-là, par exemple, combien de temps tu passes sur la réalisation couleur ?
La réalisation couleur, ça a été 3 semaines de travail.
Voilà. 3 semaines de travail. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le déroulement de ta journée ?
En détail ?
Comment ?
En détail ?
Peut-être en détail.
Non, mais je commence à 10h le matin jusqu'à 5h l'après-midi de travail en faisant une petite pause à midi.
Et en musique ou dans le calme absolu ?
Les deux.
Les deux ?
Les deux, ouais.
Une musique.
Ça dépend de l'humeur du jour. Ça dépend de l'humeur du jour.
Musique des années 60 ? Ou c'est juste des bruits de moteur ?
Ça dépend.
Ça dépend.
Ça peut être Zappa, ça peut être tout un tas de choses, quoi.
Ah, on a dit qu'on allait te poser toutes sortes de questions, hein, donc n'hésitez pas. Vous voulez savoir son régime alimentaire ou... Alors, par exemple, là, moi, je vois une image projetée qui m'intrigue. Parce que j'ai l'impression que c'est à peu près une première étape sur la mise en couleur. C'est, a priori, c'est pas la dernière étape. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de cette première mise en couleur ?
Oui, ça m'intrigue aussi parce que je me souviens, je sais pas trop comment j'ai fait là.
Ah, c'était pas toi.
Non, c'est les premières étapes là. C'est la mise en place des masses, des vaisseaux et de la ville en bas. C'est vraiment la toute première étape là.
Alors en béotien, je me dis que si tu as besoin de travailler sur des masses foncées, pourquoi est-ce que tu prends pas un papier foncé directement ?
C'est une bonne question. Je sais pas.
Bon, j'ai rien dit. Je savais qu'il allait pas m'aider, mais à ce point.
Non, parce que le problème du ciel ce serait difficile à résoudre sur papier foncé. Par contre, les vaisseaux, c'est toujours plus intéressant de remonter les lumières par-dessus.
Voilà, donc enfin, là, on a quelques détails. Là, la problématique de l'affiche, elle est un petit peu particulière parce que tu savais que ça allait être agrandi. Mais quand on voit que sur tes couvertures, tu travailles de la même manière, et on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de détails qui se perdent dans la couverture, hein, quand le livre est reproduit simplement. Donc, pourquoi ?
Tout simplement parce que c'est le format qui m'intéresse. J'ai pas envie de travailler plus petit, j'ai pas tellement envie de travailler plus grand. Je trouve que c'est le format auquel je suis adapté. Quoi.
Mais sur une couverture de livre, par exemple, tu passes combien de temps ?
En général, sur une couverture du livre, je passe une semaine. Maintenant, j'en fais certaines en format plus grand, donc forcément plus long. Mais à la grande époque du livre de poche, c'était une semaine pour une couverture.
Sur des formats plus petits ?
50-65. Les formats qui sont exposés, la plupart, la grande majorité des formats qui sont là.
Alors en même temps, on va aller voir quelques autres images. Et alors dans ton parcours, tu as travaillé énormément donc, sur des couvertures de romans essentiellement. Et depuis quelques années, quand même, tu t'es pas mal diversifié sur les couvertures de bandes dessinées. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette nouvelle aventure, comment c'est arrivé, comme la rencontre avec peut-être Olivier Vatine ou Fred Blanchard ?
C'était une rencontre ici aux Utopiales avec Olivier Vatine et Fred Blanchard, qui m'ont demandé si je voulais pas collaborer sur une série. Je crois que c'était Aqua Blue d'ailleurs. La première que j'ai faite, sur laquelle j'ai travaillé. Et puis après, Fred m'a demandé de travailler sur Histoire secrète. Et puis ça s'est enchaîné au fur et à mesure. Et ça représentait une bonne partie de mon temps de travail.
Et alors, par exemple, parce que sur les couvertures de série B, donc tu travailles essentiellement sur le fond de l'image, hein, sur l'environnement avant tout, puisque la couverture a cette caractéristique qui fait que le personnage est fait par un autre dessinateur, souvent donc Fred Blanchard.
Pas toutes, sur Jour J, c'est moi qui fais la totalité de la couverture. Sur Histoire secrète, c'était Olivier qui faisait le personnage par-dessus.
Et lorsque tu travailles avec une image, sachant qu'elle va être retravaillée, mise en page d'une certaine manière, avec quand même une identité assez forte de la collection, par exemple série B, qui plus est, si on doit rajouter un personnage, ça te frustre pas de ne pas pouvoir travailler sur la globalité, ou par moment, est-ce que tu n'as pas envie de leur dire, moi, j'aurais pas placé le personnage à cet endroit, ou j'aurais
non,
pas...
Non, c'est pas frustrant. Enfin, c'est le pitch de départ. C'est comme ça qu'ont été conçues les couvertures. Donc voilà. En plus, moi j'avais déjà fait un peu d'essai avec Olivier sur une voiture, sur une Opel. On avait travaillé pour le constructeur et on s'était rendu compte que les personnages d'Olivier et mes fonds illustrés, ça fonctionnait parfaitement bien. Et de là est venue après la série Histoire secrète, où lui faisait les personnages et moi je travaillais sur le décor derrière. Et ça fonctionnait bien, quoi. C'était assez sympa. Les styles étaient tellement opposés que ça fonctionnait.
Et alors, est-ce que tu peux nous parler de l'image que l'on voit là, par exemple ?
C'est une image. Oui, c'est un détail. C'est une image à un grand format qui doit faire 120 par 80, qui a été vendue chez Christie's l'année dernière.
Donc, un petit peu d'aérographe ?
Un petit peu, oui, sur le soleil au fond, sur les éclats de lumière aussi. Sur les détails du réacteur du vaisseau principal là, au premier plan. C'est pas un appareil que j'emploie à profusion, l'aérographe. Je préfère travailler au pinceau, à la brosse. Mais il y a quelques trucs, quelques effets qui sont difficiles à rendre à la brosse, au pinceau.
Et lorsque tu travailles sur une image comme ça, est-ce que tu imagines complètement les choses ou est-ce que tu as vraiment un gros travail de recherche, de documentation en essayant d'être le plus réaliste possible? Parce que c'est vrai que lorsqu'on voit tes images, on a vraiment l'impression que les vaisseaux existent déjà, par exemple.
J'ai une idée assez précise du vaisseau, hein, du véhicule. Quand je le redessine, que je le peaufine, c'est vraiment pour affiner la perspective ou affiner les détails, les petits détails. Mais dans l'ensemble, j'ai une idée très précise dans la tête, quoi, au départ.
Au départ, une conception complète, ouais. De l'objet.
Ça me joue des tours, des fois, quelquefois. Parce que je me lance directement sans faire de rough couleur. Et quelquefois, j'ai des surprises.
Par exemple, est-ce que dans le cas de surprise, par exemple, pour aller jusqu'au bout de la chaîne graphique, est-ce que tu as eu des surprises jusqu'à ce que l'éditeur ait lui-même la surprise et, par exemple, refuse la couverture? Est-ce que c'est déjà arrivé?
C'est arrivé une ou deux fois, mais c'était pas spécialement sur un détail précis de la couleur, de la composition. C'était plutôt une mauvaise voie qu'on avait pris qui correspondait plus au bout du compte au roman.
Et lorsque tu travailles sur par exemple un roman, tu travailles de la même manière que ce que tu nous as montré sur l'affiche? Tu fournis des roughs ou est-ce qu'il y a un directeur éditorial par exemple qui lui te demande comme nous expliquait Chris Foss l'année passée? Cette semaine tu as fait un vaisseau bleu donc aujourd'hui je voudrais un vaisseau rouge.
J'ai jamais eu de demande dans ce sens là j'ai tout le temps fait un peu les trucs qui me plaisaient. Alors je fournis pas mal de roughs, d'esquisses, et c'est l'éditeur qui choisit en général. Quand je travaillais avec Gérard Klein, on choisissait ensemble et on arrivait à tomber assez rapidement sur la même proposition. Après, s'il y a certains roughs que j'ai pas envie de faire, je lui montre pas, quoi. Voilà.
Et est-ce que tu lis tous les livres que tu illustres ?
Pas tous, non. Pas tous. J'en ai une bonne partie. Mais je peux travailler aussi sur un brief de l'éditeur ou sur des extraits du roman. Mais souvent, à chaque fois que je travaille dans ce sens-là, quand j'ai pas lu le bouquin et que je le lis après que le bouquin soit paru, je me dis que j'aurais pas fait du tout cette couverture-là, quoi.
Si tu avais lu le livre.
Ouais. Ouais.
Voilà, donc là on a l'image en sa totalité. Donc celle-ci, elle fait combien en dimension?
120 par 80.
120 par 80. Mmh. Et il n'y a pas très longtemps que tu travailles sur grand format, en fait, de cette manière-là.
Non. C'est l'occasion de travailler avec la galerie Daniel Maguen qui me donne cette possibilité-là. La vente qui est beaucoup plus importante, le prix de vente qui est beaucoup plus important qu'une couverture de roman, quoi. Donc ça permet de prendre plus de temps pour travailler sur une image.
Et est-ce qu'aujourd'hui, quand on t'appelle pour une couverture de roman, du coup t'as pas forcément la même motivation pour retravailler en plus petit, d'une manière plus rapide?
Ce que j'essaye de faire maintenant, c'est je fais moins de couvertures, mais j'essaye de les faire en grand format.
D'accord, donc de passer plus de temps.
De passer plus de temps, en sachant que la galerie va me prendre l'image, quoi. Donc c'est quelque part c'est une sécurité. Parce que le prix de la couverture chez l'éditeur, il ne va pas changer. Hein. Que je le fasse sur un format A4 ou sur un format 120 par 80, ça sera exactement le même prix.
Oui, donc là, du coup, la galerie te permet de donner une seconde vie à
voilà,
tes images.
Voilà, exactement. Ouais.
Donc là, on est sur une couverture série B.
Qui n'est pas finie, là.
D'accord, donc là, on est au tout début. Et donc là, je vois un rough sur calque, par exemple.
Ouais.
Et alors, le calque, du coup, là, c'est un personnage qui est travaillé par un autre dessinateur.
Moi, je trace l'emplacement du personnage qui sera dessiné par le dessinateur pour éviter de placer les personnages, les autres petits personnages, derrière.
D'accord. Ça,
pour gérer la composition.
Et à aucun moment, tu as envie de leur dire ben, je fais le personnage.
La couverture est conçue comme ça, donc j'ai aucune raison de vouloir faire le personnage.
On va aller voir d'autres lignes de front. Alors ça fait quoi? Ça fait 25 ans que tu fais des couvertures de romans, un peu plus peut-être.
Depuis 85, 84.
Ah oui, donc un petit peu plus. Ouais. Et l'évolution en fait de tes commandes, l'évolution de, je dirais, de la relation à l'éditeur. Avant, tu travaillais quand même, tu as travaillé longtemps exclusivement pour le livre de poche. Et après, du coup, il y a eu quand même beaucoup d'autres collections qui t'ont demandé. Comment est-ce que tu as vécu ça? Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vis le fait de faire déjà un petit peu moins de livres, mais par choix, d'une part? Et puis aussi, bon, par rapport à l'évolution de l'édition aujourd'hui, il y a quand même un petit peu moins de titres sortis, peut-être des choses un peu moins intéressantes. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit que le travail, par exemple, uniquement pour la galerie pourrait être une possibilité?
Je me suis posé la question, mais j'ai vraiment envie de continuer à faire des couvertures de romans. C'est vraiment mon truc, quoi. C'est vraiment ce qui me plaît, lire le roman et puis en tirer une synthèse en une seule image. C'est vraiment un truc qui me plaît bien. Donc je vais continuer à faire des couvertures. De toute manière, j'en ferai moins. Je vais choisir les auteurs que j'ai envie d'illustrer. En général, les auteurs de Hard Science. Et voilà. C'est très bien, la galerie donne une seconde vie, comme tu disais tout à l'heure, à l'image.
Et est-ce que tu as des relations privilégiées avec les auteurs, par exemple? Est-ce que tu peux appeler l'auteur pour avoir des détails sur ce qu'il a voulu dire? Ou est-ce que lui-même t'appelle pour, par exemple, te donner une indication ou te suggérer quelque chose?
Quand c'est des auteurs français, j'aime bien les avoir au téléphone, discuter un peu avec eux pour voir comment ils voient la couverture. C'est quand même leur bouquin. Mais j'échange pas mal avec Laurent Genefort, dont j'ai fait les couvertures d'Omal et les vaisseaux d'Omal. Après, c'est souvent des auteurs anglo-saxons, donc là, c'est plus problématique pour avoir des contacts.
Alors là, on voit quelques parties d'images qu'on pourrait qualifier de presque inhabituelles dans ton travail. Tu peux nous en parler un petit peu?
C'est un cycliste que Fred voulait mettre en avant-plan. Et l'idée était à abandonner. On a laissé l'avion au sol.
D'accord, donc là, tu nous as amené vraiment des images de la cuisine interne, même des images donc, qui ne sont pas parues. Quoi, en fait.
Souvent, j'ai fait un cycliste, un personnage au premier plan, pour voir ce que ça donnait sur la composition en le mettant en place sur l'image. Ça m'arrive de faire un arbre, un peu de végétation au premier plan. Fred me demande souvent des trucs comme ça. Parce que lui, après, il fait sa tambouille au niveau de la composition de l'image.
Et alors, est-ce que tu fais des fois des images sans machine aucune?
C'est difficile, hein.
C'est difficile.
Non, en général, il y a tout le temps une machine quelque part.
Parce que t'as pas tellement illustré de choses, par exemple, en fantasy?
Je déteste la fantaisie.
Tu détestes la fantaisie. Alors pourquoi tu détestes la fantaisie? Il y a trop de...
Non, mais je suis très attaché au côté scientifique. Donc voilà. Je trouve que la science-fiction, c'est un domaine qui avance avec son époque. Il y a toujours des trucs à faire, il y a toujours des choses à découvrir. Je trouve que la fantaisie a un petit côté... ça stagne un peu, quoi. C'est du mal à se renouveler, je trouve. C'est... enfin bon, je suis pas non plus. Peut-être que, qu'il y a des choses auxquelles je suis peut-être passé à côté de certaines choses. Hein.
Bon, ça, ça reste à débattre. Il y a qu'ici que tu peux dire ça, hein, sans te faire lyncher.
Ouais.
Alors, tu as travaillé aussi sur du design de films. Avec, juste une... par exemple, Marc Caro, donc, ouais, et Dante, Dante 01.
Ouais.
Est-ce que c'est une expérience qui te donne envie de la renouveler? Est-ce que c'est un univers qui te permet, disons, de te dire, tiens, est-ce que là, je suis passé d'un format 50-65 à du format 80-120, mais du coup, le cinéma, ça me permettrait de travailler sur quelque chose qui claquerait encore un peu plus?
Là, je sais pas trop. Faudrait voir. Enfin, je serais assez. Mon choix serait déterminé par le type de film, en fait. Là, c'était une expérience assez sympa, surtout avec Marc Caro. Mais je sais pas si je travaillerais facilement sur le cinéma. Il faut souvent faire de la post-production ou de la au niveau image. Et moi, j'aime bien pousser vraiment à fond l'image, le détail. Et c'est pas trop ce qui est demandé en recherche, en design. Il faut surtout produire beaucoup de choses et sans que ça soit très abouti.
Alors, tu es assez critique sur le cinéma de science-fiction.
Oui.
Est-ce qu'il y a des films qui trouvent grâce à tes yeux?
Oui, quelques-uns quand même.
Par exemple
Le principal, c'est 2001. Bon, il y a des films comme Blade Runner, le premier Alien.
Donc, ce matin, Roland Lehoucq nous parlait longuement de Interstellar, par exemple.
Interstellar m'aurait vraiment plu s'il y avait eu la moitié du film en moins, quoi. Toute la partie scientifique sur le trou noir, c'est superbe visuellement. Après, au niveau réalité scientifique, je sais pas trop. C'est tellement un domaine. Peu connu, on peut imaginer tout un tas de choses, ça peut passer. Par contre, sur le décollage de la fusée dans Interstellar, prendre une Saturne 5 pour envoyer le vaisseau spatial, ça me paraît un peu bizarre. La base où ils fabriquent la fusée, je trouvais que ça ressemblait à un nanar des années 50, quoi. Enfin, il y a des choses qui collent pas comme ça. Je crois que le pire, c'est Gravity, en fait.
C'est ça que tu voulais me faire dire de Gravity.
Non, mais j'ai franchement détesté Gravity, voilà. Parce que là, il y a des incohérences en permanence, quoi. Je suis pas du tout rentré dans ce film-là.
Et alors, est-ce qu'il y a un réalisateur, par exemple, qui trouverait où tu te dis, tiens, lui, il pourrait avoir la possibilité de faire quelque chose qui toi te conviendrait complètement?
Cameron fait des choses très bien. Même quand c'est pas très réaliste, ça fonctionne parfaitement bien, quoi. Je pense que, enfin, je ne l'ai pas vu le dernier film de Scott, The Martian, Seul sur Mars, mais apparemment ça a l'air de parfaitement bien fonctionner. J'ai lu le bouquin, il y a quelques incohérences, mais c'est pas très grave, ça fonctionne. Il y a un souffle d'aventure dans ce bouquin, et apparemment le film est dans le même sens.
Et donc là, tu parles de Seul sur Mars. Donc je sais que tu es en train de travailler sur un design de base spatiale très réaliste concernant l'exploration martienne. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, par exemple, la différence que toi, tu aurais peut-être vue, ou en tous les cas, peut-être ce que l'on n'a pas encore vu dans le film et qui pour toi, serait beaucoup plus réaliste?
Je pense que... Enfin, j'ai vu les photos du film, les photos du rover, qui est très beau esthétiquement. Le design est superbe, mais c'est pas très réaliste. Il a des angles droits dans tous les sens, et ça tient très très mal la pression, une pression atmosphérique terrienne. C'est très dangereux d'utiliser un appareil avec des formes comme ça. La meilleure forme, c'est la forme cylindrique. Enfin, ça, je le tiens des ingénieurs avec qui je travaille. Donc je pense que à moins de découvertes de matériaux ou de technologies beaucoup plus performantes, je pense que les rovers martiens auront ce sera des tubes. Des formes cylindriques pour maintenir au minimum la pression.
Moi, ce qui me fascine quand je t'entends parler, c'est me dire, mais comment est-ce que tu fais pour doser, disons, entre ton exigence scientifique dans tes images et le besoin de poésie, forcément, quand tu fais une composition. Par exemple, quand on voit l'image anti-glace, par exemple, ce vaisseau en apesanteur presque fait en décollage, on a l'impression vraiment de passer à la surface comme ça de la Lune. À quel moment est-ce que tu te dis, tiens, là, je vais m'autoriser une liberté juste pour la beauté de la composition, plutôt que, entre guillemets, a priori, tu n'es pas enfermé dans cette exigence scientifique, mais où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence?
Disons que
la composition t'aide là-dessus.
Dans le bouquin, je n'ai pas lu le bouquin, mais visiblement, c'est quelque chose de beaucoup plus steampunk comme design. Donc là, je m'adapte. Par contre, les rétrofusées qui vont le freiner, elles sont positionnées où il faut. L'articulation des pieds, elle est bonne. Et voilà, c'est sur ces choses-là que je joue. Le design général est très, très 19e, très, très steam. Mais les fonctions principales du véhicule, elles sont là et elles sont, je pense, au bon endroit.
Et donc tu as la même exigence de documentation quand tu travailles par exemple sur une image comme Enchassement où il y a une énorme forêt. Là tu travailles presque comme un peintre du 19e, quoi, je dirais.
Oui. Oh oui, c'est exactement le même type de démarche.
Donc toujours à l'acrylique et à la brosse.
Acrylique, brosse, pinceau, ouais.
Pas encore de palette graphique et Photoshop.
Ça me déplairait pas. Je pense que ça me plairait surtout pour faire de la recherche, pour essayer des couleurs, pour essayer des ambiances. Ça va beaucoup plus vite qu'en traditionnel. Quand on pose une couleur en traditionnel, il faut y réfléchir à deux fois, quoi.
Donc si quelqu'un dans la salle veut initier Manchu à la palette graphique, allez-y. Hein.
Je travaille déjà avec des logiciels de 3D pour monter certaines choses en perspective et puis positionner l'éclairage et obtenir des ombres portées parfaites. Ça, c'est absolument imparable. C'est quasiment impossible à faire en traditionnel. Donc ça, c'est une aide précieuse. Après, pour faire une illustration totale en digital, je pense qu'il y a des gens bien meilleurs que moi pour faire ça, quoi.
Est-ce que ça t'est, là tu parles de 3D, est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, comme Jean-Yves Kervévan à l'époque, lorsqu'il travaillait sur ses couvertures, de faire une maquette, en fait?
Non, j'ai jamais fait ça.
Jamais de volume pour travailler sur les lumières, les choses comme ça? Non.
J'ai tout le temps un peu été au feeling sur les lumières. Puis je fais confiance à mon imagination. Bon, quelquefois ça joue des tours, mais voilà, on arrive à s'en tirer un peu.
Par contre, du coup, le contraire a été fait, c'est-à-dire il y a eu une maquette faite à partir d'un de tes dessins.
Oui, un vaisseau d'Il était une fois à l'espace. Et puis une petite voiture steampunk faite à partir d'une de mes illustrations de roman, La machine à différence. Un kit résine qui a été produit par une boîte américaine qui s'appelle Industria Mechanica.
Et alors, là sur l'exposition, on a 86 images, il y a quasiment 83 vaisseaux. Et donc la seule maquette qui a été faite est à partir d'une petite voiture, d'une image très belle époque, je dirais. Ouais. Et t'as pas envie de leur proposer un des vaisseaux?
Je l'ai fait. Mais il surfe un peu aussi sur la mode et il produit des choses très soit très méca, soit très steam. Donc bon, un vaisseau spatial pure science-fiction, c'est pas trop son truc, quoi, je crois.
Alors vu qu'on parle de maquette, on va forcément un petit peu plus parler de tes déviances, oui. C'est-à-dire ton côté collectionneur fou. Mmh. Donc est-ce que tu peux nous parler de ce problème?
Bah oui, quoi, j'ai quelques collections. La plus grosse, la plus importante, c'est peut-être celle d'un personnage de Star Wars, Darth Maul. Voilà.
Donc si vous avez des objets inédits de Darth Maul, je pense que ouais, ça peut m'intéresser.
Je suis preneur. Ouais.
Et par exemple, j'ai entendu parler d'une espèce de transaction actuelle qui aurait lieu avec un autre malade présent dans la salle.
Ah oui.
Fred Blanchard, qui, je crois, est en train de
J'ai dealé des illustrations contre contre la combinaison spatiale du Nostromo. Une partie de la combinaison spatiale, parce que j'ai pas la place chez moi de mettre la totalité de, la, de l'engin.
Voilà, donc si vous avez des objets qui traînent, vous savez quoi faire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Manchu? Ah, il y a une question.
Oui, vous m'entendez? Je voulais savoir si vous y aviez des commandes ou des envies qui vous sortent de votre zone de confort, en fait. Si vous aviez des grosses difficultés ou des, beaucoup de travail, des fois, pour peindre ou dessiner des choses.
Les envies qui me sortent de mon confort, bah, je ne les prends pas. Hein, voilà. Non, enfin, si sur les couvertures de série B, il y a quelques-unes qui m'ont posé vraiment des problèmes. Mais c'est pas mal, c'est un super exercice, ça me pousse à faire des choses que j'aurais pas fait naturellement. Et ça fait vachement progresser l'ensemble de la technique. Quoi.
Autrement dit, il n'a pas un carton caché avec, comme Chris Foss, toute une collection de femmes nues, par non. exemple. D'ailleurs, à propos de Chris Foss, on entend souvent que... Je dirais, il fait partie de tes pairs. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait quand même cette réelle filiation, finalement. Ou alors, tu as vraiment dépassé, tu as vraiment tué le père.
Moi, je suis tombé en admiration sur ces couvertures des années 70, de la fin des années 70. J'achetais les romans pour les couvertures, en fait, chez J'ai lu. J'ai vu une exposition au début des années 80 à Paris qui lui était consacrée, qui était absolument extraordinaire. Moi, je suis ressorti de la galerie, j'étais complètement anéanti, quoi. Mais je sais pas. C'est quelque part, c'est assez daté finalement. Et ça me plaît un petit peu moins maintenant. Je suis un peu moins fan maintenant, quoi. Il y a certains illustrateurs américains qui m'ont beaucoup marqué aussi, comme McCall ou Syd Mead. Voilà.
Alors, Syd Mead, j'espère qu'il y aura quelques surprises à venir. Ouais. D'autres questions?
Vous nous avez parlé tout à l'heure des consultants d'ingénieurs qui vous parlaient un petit peu de ce qui était plausible. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Genre, qui sont ces personnes? Comment vous les avez contactés? À quelle fréquence vous travaillez avec eux?
En fait, c'est surtout pour l'association Planète Mars. Moi, je me suis inscrit, j'ai adhéré à l'association parce que ça parle de Mars, de l'exploration martienne, de l'exploration humaine de Mars, des différentes possibilités pour accéder à cette planète. Et du coup, ils ont fini par apprendre que j'étais illustrateur. Ils ont fini par regarder ce que je faisais. Ils m'ont demandé d'illustrer quelques scènes qu'eux, ils voyaient pour présenter au public dans leur conférence. Et bon, ils m'ont proposé des sujets. J'ai travaillé sur la mise en place de ballons-sondes, sur des systèmes de forage, sur des systèmes d'habitat. Différents types d'habitats martiens et je leur propose, je fais comme pour les éditeurs, je leur propose des roughs, des esquisses avec des compositions différentes et ce qui est assez amusant c'est que j'ai un retour assez rapide et c'est pas du tout dans la composition ou dans le choix des couleurs ou dans le détail qui vont, c'est vraiment les points scientifiques. Quand j'ai eu à faire un rover pour la première fois, pour moi, effectivement, le rover idéal, c'était une rover à section rectangulaire, puisque c'était le plus logeable à ce niveau-là. Et j'ai eu un retour direct, assez sec, en me disant « c'est absolument nul, ça vaut rien », pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, quoi. Donc après, c'est comme ça que j'ai appris les problèmes de pression qu'il y a sur les matériaux dans une atmosphère quasiment nulle, quoi. Ça pousse de l'intérieur et il faut des volumes qui tiennent le coup. Donc les rapports avec les gens de l'association, c'est ça, quoi. C'est très très intéressant. Il y a le président, c'est Michel Souchier, qui est l'ingénieur à l'origine du moteur Vulcain d'Ariane 5. Donc, bon, quand on a quelqu'un en face de je lui ai posé pas mal de problèmes, des problèmes que je me posais. J'ai eu des explications très rapidement, quoi. Donc ça, quand on a des gens, quand on travaille avec des gens comme ça, c'est super enrichissant. Technologiquement, on apprend des choses et moi je m'en sers après pour mes illustrations de science-fiction.
D'autres questions ?
Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure des fusées mal placées, des angles droits, des choses qui étaient rédhibitoires dans le dessin. De quoi vous vous inspirez pour la création d'un vaisseau spatial ? Là, par exemple, dans l'affiche, on voit des grandes courbes, des petites ailettes, quelque chose de très aérien. On pourrait penser à des baleines, quelque chose du monde marin, des cétacés. Est-ce que vous avez des sujets qui vous inspirent, le monde marin, des choses comme ça ?
Non, il n'y a pas vraiment de sujet particulier. J'essaye de m'adapter. Au niveau des couvertures de romans, par exemple, quand il faut illustrer un roman, par exemple, qui se passe sur l'exploration martienne dans les 100 ans qui viennent, là, je vais direct sur la documentation de la NASA, je regarde les dernières recherches, je regarde l'avancée sur les matériaux, sur les couleurs, sur la technologie. Et on sait à quoi ça va ressembler à peu près, quoi, ce genre de d'engin. Quand on a illustré les fondations d'Asimov, la technologie, elle est tellement démente qu'on peut faire à peu près n'importe quoi, quoi. Ça fonctionnera. Mais j'essaie toujours de garder quand même un petit côté logique dans l'engin. C'est au niveau de la propulsion, la façon dont il va bouger, dont il va être propulsé. Les capteurs sur le côté, des protections, enfin des choses comme ça, quoi.
Et est-ce que les Utopiales, par exemple, un lieu comme ici, avec ce festival et ces rencontres, ça te permet aussi d'avoir de nouveaux contacts pour justement alimenter ce type de documentation, la rencontre d'un scientifique que tu souhaitais rencontrer,
oui, bien sûr,
que tu souhaitais questionner là-dessus?
Les rencontres avec les scientifiques, assister aux conférences, toujours intéressant. C'est pas directement lié à l'illustration, mais il y a quelques trucs qui peuvent servir quand même.
Tu en feras toujours quelque chose.
Ouais, ouais.
Là, on a donc l'image avec le grand calque des recycleurs. C'est donc une image, un travail personnel que tu as fait cet été. Hein, c'est l'image qui est à l'entrée de l'exposition. C'est ton image quasiment la plus récente.
C'est la plus récente, ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler, en fait? Comment tu travailles lorsque tu es entièrement libre, en fait? Tu imagines ton sujet, tu t'inspires de ce que tu as déjà vu en littérature. Qu'est-ce que...
Non, sur les images que j'ai faites comme ça de pure imagination, je suis parti pas mal des nombreuses recherches que j'ai faites pour les romans. J'ai de quoi alimenter des dizaines et des dizaines d'illustrations avec les recherches que j'ai faites pour le livre de poche. Tout ça. Et là, j'ai mixé plusieurs choses. Il va y avoir souvent des orbitales, parce que je suis assez passionné par ce genre de choses. Et il va y avoir souvent des images de casse, de vaisseaux spatiaux, de casse interstellaire, parce que j'adore aussi ce genre de trucs. Donc là, c'est parfait. Là. C'est le début d'une série.
Donc les vaisseaux vont moins briller que sur tes périodes précédentes.
J'adore ce qui est un peu déglingué, en fait.
Est-ce que tu as travaillé, donc il me semble que oui, sur des couvertures de jeux ou sur des conceptions, des livrets de jeux à l'époque
Sur des jeux de rôle, oui. Sur l'Empire Galactique. J'ai travaillé sur les 4 volumes avec François Nedelec qui était aux manettes au niveau du jeu.
Et alors je pose quand même peut-être une question, mais là donc ne m'en veux pas trop. Le fantastique. Parce qu'on a parlé de la fantasy, bon, on a bien compris ce que tu en pensais. Et le fantastique,
un peu pareil.
Les zombies, t'aimes pas ça?
Pas trop fan, non. Pas trop fan.
Même quand c'est dû à la radioactivité?
Faut voir. Non, j'ai pas vraiment de... Ça peut être sympa, mais bon, sans plus, quoi.
Bon, alors, est-ce que tu peux nous parler de ta deuxième obsession? Ta collection de voitures?
Oui, collection.
Par exemple.
Il n'y en a jamais que trois, hein.
Oui.
Bon, oui, j'ai deux américaines, des années, une des années 50, de 58, et puis une autre de 73. Voilà. Une énorme Chrysler et une Ford.
Et tu les as jamais mises dans tes illustrations ?
J'ai mis la Fairlane, la Ford. Ouais. Je l'ai mis pour une couverture de Lune d'encre. On la voit cadrée trois quarts arrière. Donc là, ça a été facile. Hein. J'ai fait des photos, je l'avais sous la main.
D'autres questions ?
Bonsoir. Sur des projets comme ça, personnels, est-ce que vous avez déjà eu l'envie d'avoir une démarche inverse, c'est-à-dire de faire l'illustration d'abord et d'avoir un écrivain qui s'en empare après ?
Quelques personnes me l'ont dit, ouais, qu'ils avaient envie d'écrire en démarrant sur les images. Mais ça, pour l'instant, ça ne s'est pas concrétisé. Moi, je fais juste l'illustration. Hein. Je n'ai aucune prétention à écrire quoi que ce soit. Mais je pense que Laurent me l'avait dit aussi, qu'il aimerait bien et qu'il serait tenté d'écrire quelque chose à partir de l'image.
Oui, tu as des collaborations assez fidèles avec certains de tes auteurs, comme Daniel Martinigol, Alain Grousset, Laurent Jeunefort. Oui. Donc par exemple, lorsque tu travailles sur une série, admettons, j'imagine, de 4 volumes, le premier étant paru, le second étant peut-être encore en période d'écriture ou pas loin, est-ce que l'auteur, à ce moment-là, peut être influencé par ta couverture pour retravailler un petit peu l'univers de son roman ?
Ça peut arriver, ouais. Surtout dans la description de certaines choses. Quand j'ai travaillé avec Laurence Sonner sur Quantica, elle avait une idée très précise du vaisseau alien. Et moi, je trouvais qu'il était très anthropomorphique. Et j'ai cherché sur d'autres designs. Et j'en ai trouvé un qui me semblait un peu plus étrange. Et elle a complètement adopté ce design-là. Et elle a changé son texte, en fait.
Est-ce qu'on a Quantique ? On n'a pas Quantique. D'autres questions en attendant ?
Merci, bonsoir. Moi j'avais une question, tout à l'heure on parlait des jeux de rôle et moi c'est plus par rapport aux jeux vidéo. Est-ce que ça t'intéresserait dans le futur de travailler sur les jeux vidéo vu qu'en ce moment il y a une sorte de renaissance des jeux type espace, que ce soit dans l'exploration des zingués des vaisseaux aliens ou... juste de deux volets, est-ce que ça t'intéresserait de pouvoir piloter un de tes vaisseaux dessinés, d'avoir le son
Bien sûr, bien sûr. Mais là encore, je pense que c'est le domaine des illustrateurs numériques qui vont beaucoup plus vite, qui ont une capacité à produire des images bien plus importantes. On m'a jamais demandé de travailler pour un jeu vidéo. Mais pourquoi pas, oui.
D'autres questions ? Est-ce que tu peux nous parler de quelques projets fous que tu as ?
Le vol ?
Par exemple ?
En fait, il y a quelques années, ici aux Utopiales, à un petit déjeuner, Gilles faisait partie du petit déjeuner. On a déliré un peu sur le fait de faire une fresque en apesanteur. Puisque on a fait quand même pas mal de fresques ici aux Utopiales au début. Et bon, moi je leur ai dit que c'était un peu délirant comme histoire, et puis en y réfléchissant un peu mieux, je me suis dit que ça serait pas mal de faire une fresque pour le CNES par exemple, à la gloire du CNES, enfin, en montrant des Ariane, en montrant des lanceurs, en montrant tout un tas de choses, leur offrir la fresque. Par contre, le deal, ça serait de l'emmener dans un Airbus Zero-G et d'aller la signer en apesanteur. Bon, ça va peut-être se faire.
Il faut se dépêcher avant qu'on soit tous trop liquides pour pouvoir être en 0G.
On va en être quitte pour être relativement malade, je pense aussi. Mais ça doit valoir le coup quand même.
Donc à suivre. Bon, peut-être une autre fresque ici, on ne sait jamais aussi.
Ouais.
D'autres questions ?
Bonsoir. Alors moi j'ai une petite question par rapport à la représentation de tous ces vaisseaux qui sont imaginés. Mais est-ce qu'il y a eu des vaisseaux qui ont été créés donc par d'autres personnes, que ce soit des vaisseaux fictionnels genre Star Wars ou des choses qui ont vraiment existé pour de vrai, genre le rover Curiosity, que vous aimeriez retravailler ou redessiner, mettre en scène d'une autre façon ? Parce que le design, parce que la mécanique vous a plu ou pas plu et qu'il faudrait tout changer. Voilà, merci.
Non, pas spécialement. Enfin, il y a peut-être certains designs qui me plaisent moins que d'autres et que j'aimerais modifier légèrement, mais bon. Voilà, c'est des designs établis. Il n'y a pas de raison de les changer. Je préfère en faire d'autres complètement différents, changer quoi.
Question ?
Oui, à part la SF, donc. Tu m'entends pas ?
Si.
Les vaisseaux et les belles américaines, il y aurait d'autres sujets qui te plairaient de travailler comme ça à l'acrylique ?
En illustration ?
Ouais. Pardon.
Bof. L'astronautique ? Non, il y a suffisamment de choses à faire. J'ai suffisamment d'envie dans ces quelques domaines-là pour m'y consacrer complètement, quoi. Je sais pas, peut-être que ça se présentera, il y aura quelque chose qui me plaira d'un seul coup. Pourquoi pas, ouais. Tu penses à quelque chose en particulier ?
Tiens, à propos d'aéronautique. D'autres questions ? Il y a plein de choses à savoir sur mon CHU. Tu as longtemps collaboré quand même en dehors des couvertures. Il me semble que tu avais fait pas mal de design pour une série de Amenophis, ouais. Une série de bandes dessinées. Et à un moment donné, j'ai presque cru que tu allais même faire des planches de bandes dessinées.
Non, ça c'est vraiment pas mon truc. Ça s'arrête au design. Ça s'arrête à la recherche. Je suis pas un dessinateur de BD. Je suis pas capable de mettre en scène des personnages sur. Sur 54 planches d'affilée. Mon truc, c'est de faire une synthèse d'une histoire en une seule image. La couverture de bouquin. Dessiner dans des cases, d'une part, j'aurais l'impression d'être un peu à l'étroit. Il faut dessiner beaucoup de personnages, c'est pas mon truc non plus. Quand je suis forcé de le faire, je le fais. Mais je le fais pas naturellement. Voilà. Par contre, faire du design pour une série, oui, ça, sur Amenophis, je me suis vraiment amusé.
Et est-ce qu'il y a des dessinateurs aujourd'hui, donc à part, tu parlais de Sid Mill ou d'autres, je dirais de cette génération-là, mais des dessinateurs entre guillemets plus jeunes qui trouvent grâce à tes yeux sur leur exigence ou sur des fois te dire tiens, ça j'aurais aimé le faire.
Essentiellement des dessinateurs numériques. Des gens comme Spart, comme Martinière, et aussi Greg Mullins, qui est vraiment le. Mais il n'est pas particulièrement jeune, Greg Mullins, c'est un illustrateur, un peintre au départ, mais c'est des gens qui font des choses très intéressantes.
Et est-ce que cette particularité, d'après toi, est-ce qu'elle est due au numérique ou est-ce qu'elle est vraiment due à leur esthétique ? Et est-ce qu'ils auraient eu la même esthétique qu'en traditionnel ? Quelqu'un comme Martinière, par exemple, sur son processus de travail, il n'aurait peut-être pas pu rendre ce foisonnement.
Ouais, de toute façon, le numérique permet une quantité de détails qui est quasiment. Moi, je trouve que c'est quasiment impossible à faire en traditionnel. Il y a des utilisations de matière, de couleurs, de transparence qui me rendent jaloux, quoi, en gros. J'aimerais pouvoir faire la même chose en traditionnel, mais c'est très très compliqué.
Des questions ?
On parlait tout à l'heure d'une maquette qui a été réalisée d'après une de tes illustrations. Moi, je m'étonne avec ta passion des illustrations et des maquettes que tu n'aies pas toi-même réalisé une maquette d'une de tes illustrations.
Je suis trop feignant pour ça. Je préfère acheter les trucs tout, en partie faits et les terminer, affiner le détail. Mais ça s'appelle du scratch en fait. Faire un volume à partir de rien. Je connais des gens qui font ça très 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 bien. Moi, mais il faut du temps, il faut énormément de temps et je pense que ça. Je suis trop feignant. Ça demande trop de temps, je m'énerverais. Voilà. J'ai la patience pour une illustration, mais pour ce genre de truc, je pense que ça serait pas possible.
Oui, les week-ends étant pris par les belles américaines. Voilà. Une question de Hubert Delartigue, artiste fresquiste des Utopiales.
Bonjour Manchu. Je pense que tu commences à avoir pas mal de fans. Est-ce que tu n'as jamais pensé à transmettre ton art en étant enseignant dans une école ou à titre personnel ?
Je crois que j'ai essayé. J'ai fait quelques essais à l'école Brassard à Tours, mais je crois que je suis vraiment incapable de transmettre quoi que ce soit, quoi. Pour moi, ce qui est le background, il est tellement évident que j'arrive pas à l'expliquer, quoi. Je mesure les progrès qu'il me reste à faire par rapport à certains peintres du 19e, par exemple. Au niveau de la lumière, je vois ce qu'il faut que je fasse, ce qu'il faut que je travaille, les choses sur lesquelles il faut que je progresse. Le background, j'ai du mal à le transmettre. Je suis pas un prof.
Il faudrait passer par l'interface du robot Nao, peut-être.
Je peux faire des interventions, des discussions à bâton rompu avec les élèves. Ça pose aucun problème. Mais leur apprendre à des choses bien précises, pour moi ça me paraît tellement évident, je vois mal comment je pourrais transmettre ça.
Quelques dernières questions.
Bonsoir, je ne connaissais pas du tout votre travail, là j'ai regardé un peu toutes ces illustrations qui me semblent absolument magnifiques et complètement folles. Et dans tout ce que j'ai vu, j'ai remarqué deux ou trois œuvres qui n'ont pas l'air tirées de quelque chose, mais qui ont l'air de fonctionner toutes seules, comme par exemple ce grand robot avec un arrosoir ou cet énorme alien qui se fait engueuler par un petit bonhomme parce qu'il a cassé une barrière, et en fait ça me fait penser à la fois à Norman Rockwell et à, j'ai oublié son nom parce qu'il ne me revient pas, mais vous avez, oui, Gary Larson, il a des choses comme ça, un peu de la vie quotidienne, de choses extraordinaires ou de personnages extraordinaires. Vous n'avez pas envie d'avoir une espèce de grand portrait de personnages qui seraient à la fois pas humains mais humains, enfin comme si, enfin ça me faisait penser à des illustrateurs qui ne font qu'une image pour raconter quelque chose à la fois et de poétique et de drôle et d'absurde, et en fait je ne les ai vus que dans ces trois images.
Ces deux images là elles sont liées au roman, en fait c'est une description très ponctuelle d'un passage du roman.
Vous n'avez pas envie de vous approprier des visions comme ça, personnelles de...
Non, moi j'ai envie de travailler sur les choses comme Recycler, des choses comme ça, voilà.
les mêmes sujets que Recycler, par exemple, en beaucoup plus grand format, deviendraient de l'art contemporain, presque.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler de l'image que l'on a à l'écran, là, en fait ? Parce que, si j'ai bien compris, c'est une couverture qui n'est jamais parue.
Ouais. Ça devait être la couverture d'un roman de Laurent Genefort, Point chaud. Et en fait, j'avais procédé comme habituellement, j'avais fait pas mal de refs.
On va voir les refs.
J'avais fait toute une recherche sur les personnages extraterrestres de Laurent, qui sont dans le roman, d'après sa description. Et ensuite, j'ai mis en scène ces extraterrestres. Le ref choisi a été validé par Olivier du Bélial. Et j'ai commencé à travailler sur l'illustration. J'ai travaillé 8 jours. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et j'ai téléphoné à Olivier, qui m'a dit, ouais, c'est pas mal, mais... Essaye de faire des modifs, c'est assez rare. Il m'a demandé de faire des modifs. Et j'ai eu Laurent au téléphone aussi qui me dit ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est... Pourtant, tout le monde avait validé le projet. Et en fait, on est parti dans un truc de fou quoi, qui fonctionnait pas. Ça pourrait être une image pour l'intérieur d'un bouquin, mais c'est absolument pas une couverture. Donc là, on s'est planté. Quoi, voilà. On s'est planté, ils ont été obligés de faire une couverture en urgence, qui est à mon avis nettement meilleure que ça, qui est une couverture très graphique, très simple, qui est extrêmement efficace. Mais voilà, ça c'était c'est l'exemple d'une mauvaise voie et j'aurais dû réagir beaucoup plus vite, quoi. Peut-être même au stade du ref, en fait, pour arrêter toutes les choses.
Une dernière question ?
Bonjour Philippe, moi j'avais une question sur la technique. Bon, tu travailles principalement à l'acrylique. Je sais que tu aimes bien travailler à l'huile aussi. Tu auras envie de travailler un peu plus à l'huile ? Oui, non, et pourquoi tu ne le fais pas ?
Alors j'ai tout le temps travaillé à l'acrylique pour les couvertures de bouquins, essentiellement pour une question de rapidité. Quand on a 8 jours ou 10 jours pour faire une couverture, faut pas partir avec de l'huile parce que il y a certaines couleurs qui mettent 3 semaines, 1 mois, 2 mois à sécher. Donc là, c'est juste impossible. Il faut travailler à l'acrylique. L'acrylique, elle a été inventée par les publicitaires dans les années 50 aux États-Unis pour aller vite, quoi. Après, il y a quelques images que j'aimerais bien réaliser à l'huile, mais tout s'y prête pas. Tout ce qui est décor, forêt, décor naturel est parfait pour travailler pour l'huile. Pour ce qui est des vaisseaux spatiaux, des constructions très géométriques, très, très construites, très, avec des angles, l'acrylique est quand même beaucoup plus pratique. Ça peut se faire à l'huile, mais c'est compliqué. Voilà. Voilà.
On a bien compris que pour Manchu, l'huile, c'est pour les moteurs.
Oui.
Alors moi, je continuerai bien encore une petite heure, sachant qu'a priori, on aurait presque toute la nuit devant nous, mais on va quand même être obligé de te libérer. Donc, je te remercie de ce petit moment passé en ta compagnie, parce que c'est frustrant, parce que là, vous avez remarqué, il parlait de plus en plus. Hein, donc, on aurait très bien pu continuer, mais bon, on reviendra. Je vous remercie d'avoir assisté à cette rencontre. Je te remercie pour toutes ces belles images. Je crois que la majorité d'entre nous, le public et les organisateurs, nous sommes à peu près d'accord pour dire que c'est une des plus belles expos des Utopiales de toute l'histoire du festival. Donc je suis très heureux personnellement de t'accueillir pour ce festival. Merci à vous. Passez une bonne soirée.
Merci.